France Musique.
Merci beaucoup Vincent Théval. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Label Pop.
1, 2, 3. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui dépote et rempote. Troisième épisode autour des installations sonores, pour une séance immersive dans l'univers singulier de la compositrice Patricia Alessandrini. Et pour cela, nous sommes partis à l'écoute d'une installation de plaques de métal sonnantes appelée Adagio sans quatuor, déployée en mai dernier à l'occasion d'une soirée Sound Kitchen, co-organisée par l'Ensemble Intercontemporain et la Gaîté Lyrique. Adagio sans quatuor, ou l'art de nous faire vibrer dans un temps d'écoute totalement étiré, pour nous laisser le temps de nous installer dans le sonore. Et comme chaque dimanche, un zoom sur une œuvre plus ou moins récente et un son passé au tire-jus. Le cri du patchwork, thème numéro 18, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Les sons de moteur. C'est de ces machines infernales qui nous gâchent le plus souvent les paysages sonores que l'on serait tenté d'observer. À moins qu'ils ne deviennent un objet sonore tout aussi appréciable que le chant d'un oiseau. Surtout lorsqu'il est capté par Luc Ferrari dans son presque rien numéro 1, Le lever du jour au bord de la mer. Le ronron d'un bateau à moteur, se superposant à ce presque rien de bord de mer. Et c'est souvent ce qu'on retient de ces paysages sonores marins. Le ronron des bateaux ou des barques, un peu comme celle de Venise, telle que les a attrapées la compositrice Olga Neuwirth pour sa dernière création Les Encantadas, créée par l'Ensemble Intercontemporain en octobre dernier. Olga Neuwirth a ainsi imaginé de nous plonger dans une salle de concert tapissée de haut-parleurs pour nous immerger dans un espace sonore naturel et à la fois artificiel. L'œuvre s'ouvre sur les bruits de la lagune vénitienne, mélangeant clapotis et ronrons de moteur. Avant que ne se referme la porte de l'église San Lorenzo, pour y entendre les échos d'une acoustique qui a vu la création de Prometeo du compositeur Luigi Nono. Tout un programme. Avec ces moteurs discrets de bateau, on est plus en présence d'un bourdon vaporeux que de l'agressivité d'une voiture en pleine accélération. Et pourtant, ce sont ces sons agressifs de moteurs qui passionnaient les futuristes italiens du début du XXe siècle. Synonyme de modernité, d'évolution, de révolution. Comme ces sons d'un moteur à combustion qu'insère Franco Casavola dans sa danse de l'hélice pour piccolo, clarinette, un violon et percussion. Avec en sus une machine à vent. Une époque où le son du moteur était jugé aussi doux que celui d'une flûte. Le tout début de l'hélicoptère quartet de Karlheinz Stockhausen, composé pour quatuor à cordes, 4 hélicoptères et 4 caméras vidéo. Les sons des rotors font partie intégrante de la démarche compositionnelle. Finalement, un écho lointain à la démarche futuriste de Luigi Russolo. En créant ces machines à bruit, ces intona rumori comme il les appelait, il créa des petits moteurs mécaniques du plus bel effet, comme celui-ci, l'Ululatore.
Thank you.
Avec ses machines à imiter les moteurs, Luigi Russolo répond à son désir de créer une gamme de bruits, à l'image de la gamme de notes. Exposé dans son Art des bruits de 1912, ses idées et ses machines trouvent aujourd'hui des résonances singulières, comme dans ce mélodrame de Fabio Cifariello Ciardi, intitulé « Cara P », dans lequel la soprano cite des extraits du manifeste futuriste de Russolo.
Ecco le sei famiglie di rumori dell'orchestra futurista.
Au début du XXe siècle, cette fascination pour les moteurs se retrouve également en URSS, en particulier dans les grands rassemblements mettant en scène tous les émetteurs sonores possibles et imaginables. Imaginez-vous à Bakou, en 1922, lors de l'exécution de la symphonie de sirène de Arseni Avramov, pour fêter les 5 ans de la révolution bolchévique. Sur place étaient convoqués des navires de la mer Caspienne, 2 batteries d'artillerie, 7 régiments d'infanterie, des camions, des hydravions, 25 locomotives à vapeur, entre autres sirènes, sifflets et chœurs. Un véritable concert de moteurs reconstitué ici par Leopoldo Amigo et Miguel Molina. Tonitruant, et pourtant musical. Dans ce sens, l'ethnomusicologue François Picard raconte ainsi l'expérience sonore qui l'a amené à entendre le moteur d'une Harley Davidson comme un objet musical du plus bel effet. J'ai appris à apprécier un moteur en particulier, celui de la Harley Davidson. Certes, j'avais été averti par le fait qu'il détenait une particularité, ou plus précisément que cette moto s'appréciait par son bruit. Mais par quelles caractéristiques, on ne me l'avait pas dit. Puissance, dynamique, régularité des partiels, présence de formants vocaliques, capacité à générer une hauteur reconnaissable faisaient partie des pistes possibles d'un vocabulaire de l'objet musical. Et puis, un jour, dans une petite rue de Leyde, aux Pays-Bas, où je marchais à pied, j'ai été saisi par le ravissement sonore. Il y avait là, à l'arrêt, non pas une Harley, mais plusieurs. Et c'est ce bourdonnement d'ensemble qui conférait la musicalité évidente, immédiate. On était en 1996. J'étais Senior Visiting Fellow à l'International Institute for Asian Studies, où je menais une recherche sur la musique chinoise et les rites bouddhistes. J'étais donc ethnomusicologue, asianiste, anthropologue, et j'entendais la musique des Harlais. Et c'est vrai que ces à-coups, ce bourdon régulier et vibrant d'une moto, et en particulier d'une Harley, c'est tout simplement beau. C'est sans doute ce son qu'a imaginé Pierre-Henri lorsqu'il écrivit la séquence « moto et manège » de sa musique pour le film muet expérimental « L'homme à la caméra » de Tsiga Vertov. Mais sans utiliser un seul moteur. Pierre-Henri ou l'art de motoriser le moindre son.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Le cri du patchwork s'est déplacé à la Gaîté Lyrique à Paris pour une soirée un peu spéciale, Sound Kitchen, des soirées organisées par l'Ensemble Intercontemporain et la Gaîté Lyrique autour d'une compositrice, Patricia Alessandrini. Et ce soir, c'est la troisième soirée. Nous sommes dans un espace un peu clos, tout en haut de la Gaîté Lyrique, dans une installation qui s'appelle Adagio sans quatuor. Et nous allons en parler tout de suite avec la compositrice pour savoir ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va entendre. Alessandrini, bonjour.
Bonjour Clément.
Adagio sans quatuor. Alors nous, évidemment, quand on parle d'adagio, on pense tout de suite à un mouvement lent. Sans quatuor, parce que là, ce sont cinq plaques de métal. Est-ce que ça veut dire que ces cinq plaques de métal suspendues qui vont sonner remplacent le quatuor qui aurait dû jouer cet adagio?
En fait, oui. C'est-à-dire, ils sont comme des instruments, plutôt comme des instrumentistes. Et en fait, la particularité, c'est que chaque plaque, parce que c'est des plaques en différents types de métaux, il y a laiton, il y a acier, etc. Et donc, ils ont des propriétés physiques qui sont différentes pour chaque plaque. Et du coup, ils rendent les matériaux d'une manière spécifique à leur propre physicalité.
Chaque plaque pourrait être comparée à un violon, un alto, un violoncelle, c'est-à-dire avec des registres, des tessitures différentes. Parce que vous parlez d'adagio, parce que finalement on va parler de quatuor, à l'intérieur de ces plaques, on y entend de la musique. Alors pourriez-vous peut-être nous expliquer comment ça marche cette installation? Parce que cinq plaques de métal, mais comment elles sonnent?
Alors ce que j'avais fait à l'époque, c'était en 2010 que j'avais réalisé l'installation, j'avais fait des enregistrements avec le quatuor d'Iotima. Et ils ont joué de différentes manières le quatuor. Après, j'ai aussi trouvé plein de différents enregistrements et j'ai mixé tout cela ensemble. Et après, je fais un ralenti toute la chose sans corriger la hauteur. Ça fait que ça sonne plus grave, non?
Alors, juste pour vous interrompre, c'est que là, vous parlez du quatuor, mais d'un quatuor bien spécial. C'est le quatuor Les Dissonances de Wolfgang Amadeus Mozart. Et je vous propose de l'écouter. C'est le tout début, l'adagio d'ouverture.
Thank you.
C'était le tout début de l'adagio du quatuor des dissonances de Wolfgang Amadeus Mozart, donc qui est vraiment à l'origine de cette installation adagio sans quatuor. Donc vous nous disiez que vous preniez ce quatuor, Patricia Alessandrini, et vous le stretchez, c'est-à-dire vraiment vous le ralentissez à l'extrême. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous le diffusez dans les plaques de métal?
Exactement. Mais je ne diffuse pas tous les enregistrements tous ensemble, évidemment. Ce que je faisais d'abord un mixage de tous les enregistrements, extrêmement étiré. Après, je choisis des bandes de fréquences qui correspondent à certaines résonances à chaque plaque. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque plaque rend le matériau de sa manière, parce que j'avais choisi. Surtout, je cherche des réactions qui sont pas exactement harmoniques. Mais ce que je cherche, c'est des frottements, c'est des différentes références, résonances, selon les particularités de la plaque. Donc, les réactions inharmoniques.
Finalement, le quatuor qui va passer à travers les plaques, parce que ce sont des petits haut-parleurs qui sont plaqués sur chaque plaque, oui. C'est le cas de le dire, eh bien, vont rendre un quatuor qu'on ne reconnaîtra pas. On va dire franchement qu'on n'entend pas tout le temps du Mozart, mais par contre on entend ici du Patricia Alessandrini qui relie du Mozart à travers le médium du métal. Adagio sans quatuor, une installation kinétique, c'est-à-dire qui bouge, ça on va y revenir, Patricia Alessandrini. Et dans cette installation-là, on s'est déplacé aussi avec le micro parce qu'on peut vraiment se rapprocher d'une plaque ou d'une autre. Finalement, c'est comme si on se déplaçait dans un instrument. Est-ce que l'installation kinétique, pour vous, c'est ça? C'est-à-dire, le public peut bouger à l'intérieur d'un gros instrument qui, ici, ben, prend tout l'espace.
Oui, d'une certaine manière, un méta-instrument, peut-être on peut dire, qui est composé de chaque plaque. Et aussi, il faut dire que les plaques, la raison que ça s'appelle une installation kinétique, c'est qu'il y a des moteurs qui sont attachés à certaines plaques et qui les manipulent. Et ça, c'est aussi juste comme un peu changer la tension d'une corde, un peu aussi changer la position, à quel point c'est courbé la plaque, parce qu'ils sont suspendus. Et du coup, ils rendent les matériaux d'une manière différente. Donc ils sont accordés en temps réel.
Vous accordez la matière. Oui. Et là, on peut parler vraiment de musique qui parle de matière musicale. Vous travaillez sur la matière qui est le métal. Finalement aussi, le son qui passe à l'intérieur de la matière métal, c'est de la matière pour vous. Vous la sculptez, la matière musicale, vous. Vous parlez souvent de ça, de sculpture du son, de comment on peut toucher le son aussi.
Oui. En fait, quand je compose, j'essaie de composer en réaction à des situations. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que si je me mets dans une situation que je compose pour cette plaque, et aussi je dois accorder la plaque à certaines fréquences qui finalement viennent de Mozart, ils ne viennent pas de moi, ça me donne une situation où je peux interpréter les matériaux d'une manière, j'espère, intéressante. Et donc, il y a une interprétation aussi des dents, l'installation, comment on choisit de faire un parcours aussi.
Composer, est-ce que c'est interpréter aussi pour vous? Parce que je sais que pas mal de vos œuvres, Patricia Alessandrini, sont issues d'écoutes d'autres œuvres. Donc Arnold Schoenberg, Henri Purcell, qui sont des compositeurs que l'on retrouve dans votre œuvre. Est-ce que pour vous, composer, c'est interpréter ce qui existait déjà auparavant?
Oui, tout à fait, parce que je me place dans l'histoire, de toute façon. Je me place peut-être d'une manière pas toujours confortable aussi. Où est-ce que je me place dans cette histoire? Et je ne suis pas intéressée de faire un certain style de musique contemporaine. En fait, il y a une citation de Gerhard Richter. C'est « Le style est violence et je ne suis pas une personne violente ». Et je sens comme ça, je sens que je veux faire quelque chose, je veux créer, mais je crée de toute façon à partir de l'histoire. Je trouve qu'il n'y a rien de nouveau, il y a juste des combinaisons de différentes circonstances et ça fait l'interprétation. Donc oui, je trouve que je fais une interprétation du passé par mes œuvres.
Thank you.
dans Adagio sans quatuor, donc pour ces cinq plaques de métal, c'est cette idée aussi que finalement on a une sorte de formule, une sorte de, on peut dire, modélisation du geste instrumental. C'est-à-dire ce moment où le son va apparaître, et je sais que dans votre œuvre, Patricia Alessandrini, c'est que souvent on est à la limite du son qui va casser, du son qui va apparaître, cette naissance du son qui pourrait très bien ne pas arriver et qu'on pourrait rester sur un geste qui ne donnerait aucun son. Est-ce que vous parliez de style que vous essayez peut-être d'éviter, mais on retrouve ça dans toutes vos œuvres pratiquement, ce moment où le son pourrait apparaître les petits millièmes de seconde avant que le son n'apparaisse. Est-ce que c'est une obsession chez vous finalement?
Ah, tout à fait. Oui, et ça, c'est évidemment un choix. C'est un choix que... Mais ça, pour moi, c'est d'une certaine manière d'échapper du symbolique. C'est-à-dire, c'est pas juste une partition son comme ça. C'est chaque instantiation qui est différente. Donc, c'est plutôt mettre l'accent sur cela. C'est peut-être aussi déranger l'hiérarchie de toute cette idée compositeur, interprète, que tout est absolu dans la partition. Je sais que dans le moment où le son se réalise, c'est aussi l'acoustique, évidemment. C'est aussi l'écoute du public qui change. Il y a une électricité, non? C'est pas une chose qu'on entend, mais c'est une chose qu'on voit et qui change le rapport et qui change la manière qu'on produit la musique, non? Donc, c'est toutes ces choses que j'essaie de mettre en jeu presque à chaque moment.
Alors, Patricia Alessandrini, je vous propose d'écouter un extrait de Menu morceau pour un autre moi réuni, c'est ça le titre, pour guitare, acoustique avec électronique, où là finalement on voit vraiment votre lien avec l'interprète original. Il s'appelle comment le guitariste qu'on va entendre?
Ah, c'est Mauricio Carrasco.
Avec qui vous avez travaillé pour pouvoir créer cette pièce-là. Et on va vraiment entendre le lien entre le geste et le son qui est assez étonnant, mais je vous laisse découvrir. Le premier mouvement de Menu morceau par un autre moi réuni, un titre trouvé par Patricia Alessandrini pour cette pièce pour guitare et électronique. Alors là, ce qu'on entend, Patricia, c'est vraiment comme s'il y avait deux guitaristes qui jouaient. Enfin, c'est l'illusion que j'en ai, c'est-à-dire un guitariste à la main gauche, un guitariste à la main droite, et comme s'ils essayaient de trouver le moment où le son pourrait se faire en synchronisation. Est-ce que quand vous travaillez avec un interprète, vous lui demandez d'aller chercher chez lui, finalement, le multi-instrumentiste qui pourrait être, c'est-à-dire la double personne, la triple personne?
Alors, quand j'avais créé cette pièce, c'était pour Mauricio Carrasco, qui est une personne qui est très intéressée dans les monodrames. Lui aussi, comédien, d'une certaine manière. Donc, on parlait beaucoup de son rapport physique avec l'instrument, parce que quand je travaille avec les instrumentistes, je suis intéressée d'intervenir dans cette relation physique, et peut-être de le changer, même d'une certaine manière. Et donc, j'avais une image dans cette pièce. Peut-être parfois, tu avais vu qu'il y a des percussionnistes qui mettent des petites clochettes autour des poignets, comme ça, pour que ça joue de manière secondaire pendant qu'ils jouent. Alors, j'avais pensé de cette image, si Mauricio avait à la main droite des petites clochettes, et puis à la main gauche, sur la manche de la guitare, peut-être des cloches plus grandes. Donc ça, c'est le doublage. Et en fait, cette idée de doublage, ça s'est vu aussi dans les pièces pour guitare électrique. Donc on joue ces deux choses en même temps. Et le titre, en fait, ça vient de Frantz Fanon. Et c'est des idées d'aliénation. Parce qu'avec l'électronique, on peut sentir une certaine aliénation parfois, et aussi avec l'instrument. Donc c'est l'idée de soi-même. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée de soi en rapport avec cet autre.
Patricia Alessandrini, dans cette pièce, Menu morceau pour un autre moi réuni, par un autre moi réuni, on entend comme des bribes de son. C'est-à-dire que souvent dans votre musique, on a l'impression que la musique nous vient, mais il faut tendre l'oreille. Est-ce que vous voulez que l'auditeur soit celui qui vienne vers votre musique plutôt que votre musique aille dans l'oreille de l'auditeur, c'est-à-dire provoquer une écoute très profonde, très attentive, intime?
Oui, tout à fait. C'est aussi par le fait que je n'optimise pas les instruments. Et ça, c'est toujours une question quand je travaille avec des instrumentistes. Pourquoi je n'utilise pas le beau son qu'ils puissent faire avec leur instrument? En partie, c'est ce que je disais avant, d'échapper du symbolique, de faire jouer l'instrument d'une autre manière que de jouer une note, bien évidemment. Mais c'est aussi pour la question de timbre et d'identité de l'instrument. Je veux qu'il crée un autre instrument, d'une certaine manière. Comme on avait parlé des plaques qui peuvent devenir un instrument. Donc, pour créer l'autre instrument, il faut quand même perdre un petit peu l'identité de l'instrument. Et c'est le timbre, un son très timbré, qui nous donne l'idée que ce soit de cet instrument. Et en plus, si je travaille avec l'électronique, je peux créer plus d'ambiguïté entre cette guitare qui déjà ne sonne pas exactement comme une guitare et l'électronique qui fait tout à fait autre chose, mais qui ajoute, qui réagit aux gestes et toute l'information qui vient de la guitare pour que c'est joué par l'interprète en même temps.
Patricia Alessandrini, est-ce qu'on pourrait revenir justement sur cette idée de mélodie en bribes? C'est-à-dire que, un peu comme dans Adagio sans quatuor, on entend du Mozart sans en entendre vraiment. Si on le sait pas, on entend quand même des harmonies qui se créent, des concordances qui se créent. Est-ce que dans cette pièce-là, Menu morceau, vous avez une œuvre à l'origine que l'on doit entendre? Ou est-ce que c'est, comme d'habitude, finalement, un effacement? C'est-à-dire un effacement de notre mémoire progressivement et comme si on devait juste avoir des sons qui restaient dans notre souvenir?
En fait, la pièce, c'était de Debussy, chanson de Bilitis. On aurait du mal à trouver dans cette pièce. Peut-être dans l'Adagio, on entend, au moins on entend cette harmonie lente qui bouge dans l'Adagio. Là, du coup, il y a effectivement des bribes. Et c'était aussi l'idée de Fanon, en fait, venait de ces poésies de Pierre-Louis, qui sont pour moi des poésies d'une certaine manière d'aliénation, parce qu'il parle, ça c'est vraiment l'idée de l'autre, il fait des poésies comme si elles étaient écrites par une poète qu'il a inventée. Et sa relation avec cette poète, c'est vraiment l'exotisme, il y a un peu tout dans cela. Et donc, moi, je sens une certaine aliénation aussi bien de la poésie que de la pièce de Debussy. De Debussy, de toute manière, je dois le dire, en général, j'adore la musique, mais la figure, c'est une figure avec laquelle j'ai une relation problématique. Et donc, voilà, ça se situe dans la musique, il y a des bribes, mais ça s'éloigne aussi.
Une autre pièce de vous, on entend des bribes, c'est Nani, une pièce pour électronique principalement, et surtout on entend des bribes d'une chanson, une berceuse grecque, c'est ça?
Oui.
Et on entend aussi une respiration, tout le temps, comme si quelqu'un allait chanter, quelqu'un allait entonner cette berceuse. Est-ce que, en créant ce moment qui précède le geste instrumental, comme pour les plaques de métal, comme pour le quatuor, comme pour la guitare, est-ce que vous voulez faire que l'auditeur soit en attente de quelque chose qu'il n'aura jamais, et donc finalement lui créer une frustration?
C'est pas pour créer une frustration, par contre. C'est exactement ça. Mais l'idée, là, c'était qu'il y a cette perceuse avec un texte extrêmement touchant qui parle d'une maladie d'enfant, un peu comparée avec beaucoup de choses dans l'histoire de ce type de poésie. Et donc, évidemment, la première fois que j'avais écouté, parce que c'est dans la langue grecque, je comprenais pas, mais j'avais intuitivement le sens de cette histoire triste, de la manière de l'expression, pas seulement de l'harmonie et de la mélodie, mais de l'expression de la chanteuse. Donc je voulais prendre juste ces traits d'expression, et donc j'ai pris que le souffle. Donc à chaque fois qu'elle chante, c'est coupé, c'est juste des souffles entre les notes. Et j'essaie de situer toute l'expression dans cela. Après, ce souffle, c'est un petit peu élargi, ce souffle est utilisé pour jouer des instruments, en fait des instruments virtuels que j'ai fait avec des modèles physiques.
Le premier mouvement de Nanni, de Patricia Alessandrini, une œuvre de 2010. Merci beaucoup Patricia Alessandrini d'avoir accepté l'invitation, puis de nous avoir accueillis surtout dans cette installation de plaques de métal Adagio sans quatuor. Donc nous sommes à la Gaîté Lyrique et on vous retrouve bientôt à la Gaîté Lyrique également avec l'ensemble intercontemporain pour le quatrième numéro de Sound Kitchen. Cette petite expérience entre découverte de compositeurs et nouveaux modes de concert qui aura lieu donc le 5 juin prochain. Et là, justement, on parlera de voix, celle qu'on n'a pas entendue dans Nanni juste maintenant. On va parler de voix avec Donatienne Michel Dansac en particulier, qui viendra avec l'ensemble intercontemporain pour parler de cette voix qui vous hante aussi, comme pas mal de compositeurs. Et j'annonce donc à tous les auditeurs qui pourront se tenir informés de tous les concerts que vous avez, des différentes créations sur votre site internet, c'est alessandrini.virb.com, V-I-R-B.com. Évidemment, vous retrouverez tout ça sur le site internet de France Musique, sur le site de l'émission Le Cri du Patchwork. Merci beaucoup, Patricia.
Merci à toi, Clément.
Le Cri du Patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Zoom sur un cadre de piano prolongé de Pierre Berthet.
Le compositeur belge Pierre Berthet prolonge toutes sortes de dispositifs sonores pour lui donner de l'espace, l'inscrire dans un espace. Il prend un objet ou un instrument qu'il dote de fils aboutissant à des bidons suspendus, un peu comme les pots de yaourt que l'on relie par un fil pour créer un téléphone de fortune. Pierre Berthet, par ses fils, prolonge l'espace de résonance acoustique d'un simple objet en une sculpture-installation. Pierre Berthet manipule le métal, en particulier lorsqu'il provient d'un piano, qui devient alors cet objet à prolonger, pour tenter d'entrer dans sa structure. Dans un double mouvement, en prolongeant l'instrument vers l'extérieur, Pierre Berthet nous invite finalement à entrer à l'intérieur. Dans l'installation intitulée « Un cadre de piano prolongé », des bidons métalliques suspendus au-dessus des auditeurs sont reliés, par des fils d'acier, à certaines cordes d'un cadre de piano. Les cordes sont mises en vibration par percussion ou friction, ou bien excitées par des champs magnétiques ou des moteurs électriques, entretenant la vibration des cordes, créant alors des masses de son enveloppantes. Pierre Berthet nous décrit son expérience sensorielle. Quand on croit entendre un son, il est rare que ce n'en soit qu'un. Quand on prend le temps de l'écouter, on se rend compte qu'il est formé d'une multitude de sons superposés plus ou moins mouvants. S'ajoutent à ceci tous ceux qu'on entend plus ou moins sans s'en rendre compte, mais dont la présence plus ou moins perçue donne au son les qualités qui le font reconnaître. En jouant avec les sons pour explorer les applications pratiques de ce principe, j'ai été amené à construire divers dispositifs pour surprendre et même tromper mes oreilles. En les étonnant, diverses questions viennent à se poser. Ce que j'écoute est-il bien là ou est-ce moi qui l'invente? Pourquoi est-ce que j'entends ce son maintenant et pas avant? Est-ce qu'il était là avant? Et quand mon attention aura été attirée vers d'autres sons, sera-t-il encore là? Est-ce le son qui change ou la manière de l'écouter? Ou les deux? Un cadre de piano prolongé est un instrument de concert pour le percussionniste qu'est Pierre Berthet. Mais c'est surtout une installation autonome, libre de sonner selon les excitateurs choisis, pour constamment étonner l'auditeur qu'est Pierre Berthet. Et ainsi, emplir un espace sonore à la fois ouvert et circonscrit par ses bidons et autres fils. Comme un piano éclaté, disloqué, étendu, prolongé. Fin de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur les installations sonores. Merci à Perrine Mingui aux commandes à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Manu Couturier et Benjamin Thuo. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, nouvelle étape dans nos installations sonores. Je recevrai l'artiste sonore Pierre Bastien, auteur de quantité de machines jouant des instruments de manière autonome. Les Mécaniums, un univers singulier et intime, qui nourrit ses œuvres depuis 40 ans, en concert comme sous la forme d'installation. Une rencontre d'un homme qui joue avec la machine. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet francemusique.fr sur la page de l'émission. Vous pourrez également podcaster tout le Cri du Patchwork. Chers écoutants,
si je fais 1, Tagaram. 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 22h30. Je passe la main à Anne Montaron et son Ala Brévé à vos oreilles.